Partie 21. Ceci est le récit de certains faits particuliers et principes, affirmés par quelques prêtres de l'évêché, lors d'une dispute publique au château de Brandsperth, le 21 jour du 7 mois 1658. Principe. Josiah Doak affirma qu'on ne doit pas s'attendre en ces jours à une révélation ou inspiration directe. Réponse. Alors vous êtes éloigné de l'esprit, vous qui dites cela, l'esprit de Dieu révèle. Vous êtes de ceux qui ont ravi, les faux prophètes et antéchristes, qui ont intérieurement dévoré en se détournant de l'esprit de Dieu, ayant l'habit de brebis, et se tenant dans les ténèbres. Le roi de l'abîme a été votre roi, car le roi des rois et seigneur des seigneurs n'est connu que par révélation. Car nul ne connaît le Fils sinon le Père et celui à qui il le révèle, ce qui montre que vous êtes hors de la crainte de Dieu, car là où est la crainte de Dieu, Dieu révèle ses secrets. Mais la crainte de Dieu est maintenant attestée, et le Fils de Dieu est maintenant attesté, et des révélations sont maintenant attestées, en nos jours comme aux jours des apôtres, mais non parmi vous, qui avez intérieurement dévoré en vous détournant de l'Esprit de Dieu, vous qui avez apostasié loin des apôtres. Principe qu'il est inutile, et aussi diabolique, c'est-à-dire démoniaque, d'attendre quoi que ce soit de tel maintenant. Ces faux prophètes n'ont eu aucune révélation parce qu'ils enseignent des erreurs, menant d'autres en captivité, et ainsi le Seigneur les laisse délibérément aveugles et sourds à la révélation. Réponse. Ainsi vous êtes dans l'esprit diabolique, démoniaque, vous qui n'attendez pas maintenant ce qui était au jour des apôtres, et vous êtes hors de la crainte de Dieu, et l'esprit qui révèle, et vous ne connaissez pas le Fils, vous, à qui il a dit aux pharisiens, qui ne le connaissaient pas, vous êtes du diable, ainsi il est connu par révélation. Principe. Qu'ils avaient l'Écriture et l'Évangile, comme il l'a confessé, non de Dieu, mais des hommes. Réponse. Ni vous ni aucun homme sur la terre ne connaissez les Écritures, sinon en les connaissant par Dieu et par l'Esprit, comme ceux qui les ont produites, qui les ont apprises de Dieu. Ainsi, celui qui connaît l'Écriture doit connaître la Révélation et l'Évangile, car ils ne sont connus que par l'Esprit qui les a donnés. Principe que la Bible était l'Évangile. Réponse. L'Évangile est la puissance de Dieu, qui était avant que l'Écriture fût écrite, et l'Évangile a été prêché à Abraham. Et beaucoup peuvent avoir la Bible, mais non la puissance de Dieu, l'Évangile, qui est la bonne nouvelle du salut pour quiconque croit. Et l'Écriture est un témoignage de l'Évangile, de la bonne nouvelle, et elle n'est pas appelée la puissance de Dieu, mais Christ et l'Évangile sont appelés la puissance de Dieu, et beaucoup avaient l'Écriture, mais ne voulaient pas venir à Christ, la puissance de Dieu, et ainsi paraît l'Évangile. Principe. Que la chair de Christ n'est pas en eux. Réponse. Les saints mangent sa chair, et ceux qui mangent sa chair l'ont en eux. Principe. Que Christ avait et a un corps charnel. Réponse. Le corps de Christ n'est pas charnel, mais spirituel. Le premier homme était de la terre terrestre, le second homme est le Seigneur du ciel céleste, et c'est un corps glorieux, et les saints sont rendus semblables à son corps glorieux, donc le premier état est charnel, le second est glorieux, ainsi il y a un corps naturel, et il y a un corps spirituel. Principe que Christ est maintenant au ciel avec un corps charnel. Réponse. Charnel en effet c'est la mort, dit l'Écriture, et elle dit que la corruption doit revêtir l'incorruptibilité, et le mortel, l'immortalité, ainsi le corps de Christ qui est au ciel est un corps glorieux, et non charnel, ni de la chair corruptible. Principe. Que Christ a un corps humain charnel, uni à sa divinité. Réponse. Charnel humain vient du sol, le corps du premier Adam était humain, terrestre, et Christ n'était pas du sol, que tous lisent ce que vous dites. Mais il était du ciel, sa chair est descendue d'en haut, sa chair qui était la nourriture est descendue du ciel. Principe. Que Timothée a conservé son ministère, non de Dieu, mais de Paul. Réponse. Timothée a bien conservé son ministère de Dieu, et connaissait le don, ce qu'il a conservé de Paul n'était pas comme venant d'un homme, mais Timothée était dans la foi dont Christ est l'auteur, et il avait le don, et tout don bon et parfait vient de Dieu, et ceci n'était pas par l'homme ni de l'homme. Principe qu'il y a autant de différence entre un esprit et un corps qu'il y en a entre la lumière et les ténèbres. Réponse. Le corps de Christ est spirituel, et ce qui est spirituel ne diffère pas de l'esprit. Ainsi il y a un corps spirituel, et il y a un corps naturel, et il y a un homme spirituel, et il y a un homme naturel, et chacun a son corps. Principe. Henry Live a dit qu'il ne connaissait rien de tel que prophétiser par révélation ou inspiration directe en ses jours. Mais avant que la foi vînt, nous étions gardés sous la loi, enfermés jusqu'à ce que la foi fût ensuite révélée. Galates 3:23. La foi vient lorsque Jésus, l'auteur de la foi, la révèle à un homme par révélation. Toutes choses m'ont été remises par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Matthieu 11:27. Car rien n'est secret qui ne doive être révélé, ni rien de caché qui ne doive être connu et venir à la lumière. Luc 8:17. L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et il n'est point monté au cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime, mais Dieu nous les a révélés par son esprit. 1 Cor 2,9 dit: C'est pourquoi, nous tous qui sommes mûrs ayons cette pensée, et si sur quelque point vous pensez autrement, Dieu vous révélera aussi cela. Phil 3,15 réponse. Alors vous n'avez jamais connu les Écritures, car nul ne connaît l'Écriture, comme je l'ai dit auparavant, sinon par l'esprit de révélation, qui révèle les paroles. L'esprit de prophétie fait voir dans les paroles, et celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas, et celui qui a l'esprit de Christ a une révélation directe et la prophétie. Et l'esprit de Dieu est direct, et il révèle, et l'évangile, qui est la puissance de Dieu, est direct. Principe. Richard Franklin a dit, il l'avait par l'écriture en réponse. Et c'était l'esprit qui les a conduits à produire l'écriture, les choses de Dieu leur ont été révélées par lui, et l'écriture ne révèle pas l'esprit, mais l'esprit révèle l'écriture. Principe, que la lumière, qui éclaire tout homme n'était pas suffisante pour conduire à Christ, réponse. La lumière Christ, qui éclaire tout homme venant dans le monde, dont il éclaire chacun et en laquelle ils doivent croire, est suffisante pour conduire à Christ. Car ceux qui croient en la lumière deviennent enfants de lumière, ils passent de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, et sortent de la condamnation, et ne mourront jamais, ainsi elle est suffisante, de sorte que celui qui ne croit pas en la lumière est condamné par elle, car voici la condamnation, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus. Ainsi vous, et ceux qui aiment les ténèbres plutôt que la lumière, parce que vos œuvres sont mauvaises, et qui ne voulez pas venir à elle parce qu'elle vous reprouvera, êtes de ceux qui vivent dans la forme de la piété et en renient la puissance, et qui enseignent aux gens à dire que la lumière n'est pas suffisante, celle dont chaque homme venant dans le monde est éclairé, afin que tous puissent croire, et qui ne sont pas condamnés par elle, et la lumière qui vient de lui est suffisante pour conduire à lui. Principe, que la grâce n'était transmise du Seigneur à aucun homme sans les moyens extérieurs ordinaires, réponse. La grâce de Dieu est apparue à tous les hommes, elle instruit les saints, et la grâce est apportée par la révélation de Jésus, comme Pierre l'a dit, par révélation, et la grâce est le don de Dieu, et n'est pas obtenue par des moyens extérieurs, par la volonté de l'homme. Et ce qui change la grâce de Dieu apparue en permission d'immoralité sont ceux qui renient le Seigneur qui les a rachetés, qui s'éloignent de la grâce, l'instructrice des saints, qui apporte le salut. Principe, que les Écritures sont la seule chose à laquelle ils doivent recourir, pour instruire l'esprit des gens en réponse. Avant que l'Écriture fût écrite ou produite, Abraham, Énoch et Abel avaient ce qui instruisait leur esprit et leur faisait voir Christ, et les Juifs avaient l'Écriture et ne connaissaient pas Christ, ils avaient le témoignage et ne venaient pas à celui dont ils témoignaient, et ainsi ils n'avaient pas la vie. Donc ce qui doit instruire l'esprit de tous les hommes, c'est l'esprit et la lumière dont Christ les a éclairés, et leurs oreilles et leurs yeux doivent être ouverts à l'esprit de Dieu en eux-mêmes, avant qu'ils entendent sa voix, cet esprit instruit leur esprit, et alors ils viendront à connaître l'opération de l'esprit, car beaucoup peuvent avoir les Écritures et ne pas connaître cela. Et ce qui doit enseigner les gens, c'est la grâce de Dieu, Christ, la lumière et la vie, et c'est elle qui instruit l'esprit pour connaître l'Écriture. Principe. Le prêtre Doak a dit que la parole de Dieu était le moyen extérieur ordinaire et que l'Écriture est la parole, ce qu'ils ont tous affirmé. Réponse. La parole de Dieu n'est ni extérieure ni ordinaire, mais extraordinaire, c'est ce qui vit, demeure et subsiste à jamais, et les Écritures doivent être accomplies, et ce qui les accomplit, c'est la parole, et les Écritures de vérité apprises de Dieu, le Père de vérité, sont les paroles de Dieu, non une parole. Dieu prononça toutes ses paroles, et dit dans l'Exode, et mes paroles dit Christ, et quiconque ajoutera à ses paroles, dit Jean dans l'Apocalypse. Ainsi les paroles sont les Écritures de vérité, qui ne peuvent être brisées. Christ, la parole, les accomplit, lui qui était au commencement avant que les paroles soient prononcées, qui était demeure jusqu'à la fin des paroles, qui les accomplit, en qui elles aboutissent. Daniel Robert, enseignant auprès des baptistes à Reading, dans le Berkshire, a affirmé principe que le baptême d'eau, c'est-à-dire l'eau élémentaire extérieure, lave le péché. Réponse. Ici vous mettez l'eau à la place du sang de Christ qui purifie de tout péché, et à quoi bon cela si l'eau le fait? L'eau extérieure ne peut laver que l'extérieur. Principe. Que Dieu avait remis tout jugement aux Écritures. Réponse. Cela est contraire à l'apôtre qui a dit « Dieu jugera le monde par l'homme Christ Jésus selon l'Évangile, et c'est la puissance, et tout jugement a été remis au Fils. » Remarquez au Fils, et les saints jugeront le monde, et il est en eux. Principe. Que la nouvelle alliance est les paroles de Christ et des apôtres, et que quiconque a la Bible dans sa maison a la nouvelle alliance. Réponse. La nouvelle alliance, c'est Christ dont parlent les Écritures, et les Juifs avaient les Écritures et se dressaient contre l'alliance, et beaucoup peuvent avoir la Bible sans être dans la réalité dont elle parle. Principe. Un autre baptiste a dit au même moment, s'il n'avait pas les Écritures, il n'aurait pas su comment marcher ni régler leur conduite. D'accord, puisque les Écritures te disent d'être saint, d'être parfait comme ton Père est parfait, d'être miséricordieux comme ton Père aux cieux, de te purifier comme il est pur, de pratiquer la justice comme il est juste, et d'être comme il était dans ce présent monde, conduis-toi donc comme la Bible te le dit. Cependant, tu ignores ces enseignements sur la manière dont tu devrais te conduire, parce que la Bible ne te donne aucune force ni puissance pour être saint ou parfait ou pur. Sans les enseignements et la grâce de Christ, reçus du Saint-Esprit en écoutant et en obéissant, tu restes encore enfermé dans tes péchés, toujours dominé par Satan, toujours sans la puissance et la force de Christ en toi, qui doivent être reçus comme la parole implantée dans ton cœur, les paroles prononcées par Christ qui communiquent la vie à l'auditeur. Réponse : comment cela savaient-ils régler leur conduite et marcher ? Avant que l'Écriture fût produite, la vie qui les a conduits à produire l'Écriture réglait aussi leur marche, afin qu'elle lui soit agréable. Et les pharisiens avaient les Écritures produites depuis la vie, mais étant hors de la vie, leur conduite n'était pas réglée par elles. Principe. Daniel Roberts a affirmé qu'il ne connaissait pas d'autre esprit que celui qui était dans l'Écriture et qu'il le portait dans sa poche. Réponse : l'esprit n'est pas dans les Écritures, mais dans ceux qui les ont produites et dans ceux dont les Écritures témoignent. Beaucoup ont obtenu les Écritures, mais manquaient de ce qui les a produites. Ainsi, ils n'étaient ni en unité avec les Écritures, ni entre eux, ni avec Dieu. Et dans toute la chrétienté soi-disant, il manque cela, l'unité de l'esprit, dans laquelle est le lien de la paix, car beaucoup ont les paroles mais non l'esprit. Une réponse au principe de Timothy Trevet, proposé sous forme de question. Principe. Que la lumière en tout homme, en tant qu'en tout homme, n'enseigne pas le chemin du royaume de Dieu, ni ne donne l'espérance de la vie éternelle. Réponse. La lumière en tout homme, qui éclaire tout homme, enseigne le chemin du royaume de Dieu, et elle n'enseigne aucun autre chemin que celui du royaume. Et bien que les hommes la haïssent et ne veuillent pas venir à elle, parce que leurs œuvres sont mauvaises, pourtant elle est l'enseignant en tous les hommes, qui leur donne le sens de la transgression et une compréhension de la réprimande conviction. Et s'ils viennent à elle, ils sont repris, et là est le royaume dans les hommes. Et c'est ce qui fait voir à tous les hommes le trésor régnant, et fera que toute langue confessera Christ. Principe que la semence à laquelle la promesse de salut est faite sont, ou ont été des pécheurs. Réponse. La promesse de Dieu est pour la semence que le pécheur a chargée comme un chariot de gerbe. Cette semence est l'espérance, Christ, qui purifie comme Dieu est pur. Et ici la créature vient à connaître sa liberté parmi les fils de Dieu. Et la semence, Christ, n'a jamais péché ni dans l'homme ni dans la femme, ni chez les juifs ni chez les gentils. Et de ce mystère les grands docteurs hautement professants étaient ignorants, eux qui se tenaient à distance des gentils, de sorte que Christ n'avait pas de place parmi eux, sinon à l'étable, dans la mangeoire, bien qu'ils parlassent de lui des lèvres. Et de tel, Christ les appelle des sépulcres et des tombeaux, et des murs blanchis, et le mur n'est pas la semence, ni le tombeau, ni la fosse, mais la semence, c'est Christ. Ainsi cette promesse n'est pas à des semences, comme à plusieurs, mais à une seule, la semence qui est Christ. Principe. Qu'il n'y a aucun homme qui possède le royaume de Dieu tant qu'il est dans le corps mortel. Réponse. En cela, vous êtes comme Nabuchodonosor, qui doit paître comme le bœuf, la bouche vers le bas, vous qui ne connaissez pas le trésor régnant parmi les enfants des hommes, et Dieu demeurera en vous, et marchera en vous. Et là où Dieu demeure et marche dans les hommes, ils sont ses temples qui sont saints, là est son royaume, sa puissance, son autorité, et le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il demeurera en eux et marchera en eux, et tel est l'état de milliers de ceux qui sont dans la nouvelle alliance, qui connaissent la puissance de Dieu du trésor sa loi mise. Principe que celui qui ne prêche pas la mort et la résurrection, et l'homme Christ Jésus, ressuscité des morts à Jérusalem, ne prêche pas l'évangile, quoi qu'il déclare d'autres. Réponse. Celui qui prêche Christ doit prêcher ce Christ qui est mort à Jérusalem, car il est le même aujourd'hui, hier et éternellement, l'agneau immolé de la fondation du monde. Cette semence, Christ brise la tête du serpent et détruit la mort et le diable, qui est sorti de la vérité, et la mort étant détruite, le captif sort par la puissance qui est l'évangile, et le prisonnier de l'espérance se manifeste, et alors l'alliance de lumière et de vie se ressent, et la paix avec Dieu. Mais le réprouvé, diable, mort et destruction, antichrist, la bête et le faux prophète, peut parler du Christ au dehors sans qu'il soit ressenti au dedans, cela sont alors des réprouvés. Et quant à ce que vous dites, que la semence n'est pas en tous les hommes, commencez par la connaître en vous-même, elle n'est pas dans l'homme de péché l'esprit de Satan, qui doit être détruit, qui a aveuglé votre esprit et s'est emparé de votre cœur, ainsi jugez-vous d'abord vous-même. Principe. Celui qui ne s'attend pas à la résurrection d'entre les morts, de sa propre personne, comme Christ est ressuscité des morts, littéralement compris, n'a pas de véritable espérance de la vie éternelle née dans son intelligence. Réponse : la résurrection des saints est en Christ, et il est la résurrection, ils sont de sa chair, de ses os et de son esprit, et les saints sont de la chair de Christ qui n'a pas vu la corruption, et de ses os, et ils ont l'espérance de la vie éternelle promise par le Père. Et maintenant, la chair de Christ, les Juifs ne la connaissaient pas, eux qui étaient idolâtres et fornicateurs, car Christ selon la chair était d'Abraham, qui est sorti de toute cette idolâtrie de cette génération de fornicateurs, et c'est en cela que les saints ressuscitent, vivent et demeurent avec Christ à jamais. Et cela vient à connaître la résurrection des justes et des injustes, selon les Écritures, l'une pour la vie éternelle, l'autre pour la condamnation. Principe que Christ, par sa mort, a vaincu celui qui avait le pouvoir de la mort, et qu'ainsi il a ouvert le chemin à la vie. Réponse. Mais comment la mort est-elle vaincue en vous, puisque vous ne voyez pas le royaume de Dieu au-dedans de vous, et dites qu'il ne sera pas tant que les hommes seront dans leur corps mortel. Et combien vous êtes loin du Saint-Esprit, et de la puissance, et de la joie, et de la justice, en quoi consiste le royaume? Et Christ qui a vaincu la mort et la vie, et le chemin vers Dieu, le Père de la vie, qui éclaire tout homme venant dans le monde, afin que, par la lumière, il puisse le voir et y croire, qu'il soit enfant de lumière et vienne à la lumière de la vie, et ceux qui n'y croient pas sont condamnés par la lumière, principe. Que l'immutabilité du dessein de Dieu, de son amour, est le seul fondement de l'obéissance et de la stabilité de l'homme, ou de sa persévérance dans l'obéissance, et non l'obéissance de l'homme comme fondement de sa stabilité. Cet homme plaide pour que la désobéissance soit excusée et présumée être de l'obéissance. En vérité, à quoi sert une religion qui vous laisse identique à ce que vous étiez avant de l'adopter? Réponse. La stabilité de l'homme, c'est Christ, la lumière, la vie, le fondement de Dieu qui demeure ferme, l'espérance qui subsiste en lui, la foi que Dieu lui donne, en laquelle la semence vient à être connue dans l'homme et dans la femme, le Fils de Dieu qui demeure dans la maison pour toujours, qui est l'héritier de la promesse, et là l'immutabilité de Dieu est connue. On voit celui qui ne change pas, celui qui est apparu, qui ne peut être ébranlé, qui voit la fin de toutes choses changeant, et de la variabilité et des retournements, et ici l'obéissant. Principe, Dieu a ordonné à la vie éternelle tous ceux qui sont ou seront sauvés avant qu'ils aient eu l'existence en ce monde, mais nul ne vient à la possession de ce salut sinon par l'obéissance de l'Esprit. Réponse. Le fondement de la foi et de l'obéissance de l'homme, c'est Christ, qui l'éclaire afin qu'il croie et obéisse à la vérité, et celui qui connaît la semence connaît l'élection avant que le monde fût fait. Principe. Que la semence d'Israël, ce sont des hommes, et non seulement quelque chose dans l'homme, que la semence du serpent, ce sont des hommes, et non seulement quelque chose dans l'homme. Réponse. Si la semence d'Israël est des hommes, alors selon votre compte la semence d'Israël est la semence du serpent, car ce sont des hommes, et Christ, qui est venu détruire les œuvres du diable et celui qui a le pouvoir de la mort, est dit être venu détruire tout Israël et tous les hommes sur la terre. Mais vous vous trompez dans votre jugement et dans votre intelligence, car je sais que c'est la semence du serpent qui parle en vous, qui ne met aucune différence entre ce qui est précieux et ce qui est vil. Et quand Israël pensait que Christ les avait appelés des serpents, beaucoup d'entre eux ont été convertis à la foi, leurs créatures extérieures n'ont pas été détruites. Vous parlez sottement, et vous êtes livrés au pouvoir du diable, qui opère la méchanceté et le mal. Et si les hommes sont la semence du serpent, comme vous le dites, qui donc sera sauvé, puisque le serpent et sa semence doivent être détruits? Si les hommes sont la semence du serpent, alors la semence du serpent doit obéir à l'Esprit. Et l'Esprit ne doit-il pas le détruire, et l'éclat et le souffle du Seigneur le consumer? Et ce sont des hommes qui sont captifs de la semence du serpent, dont Christ est venu sauver et racheter les vies, et les détourner du pouvoir de Satan vers Dieu. Et vous devez être battu au fléau, et sentir le poids de la main du Seigneur, avant d'être humilié. Et que vous sert-il de parler d'ordination avant que l'homme ait eu l'existence dans le monde, et de vouloir faire que les hommes soient comme vous, et de dire qu'ils sont la semence du serpent, car l'homme n'est pas ainsi, en tant qu'il est homme. Et nous, et des milliers, témoignons de l'élection et du salut avant que la fondation du monde fût posée, et sommes parvenus à ceux qui embrassent le temps et l'existence, qui sont après le temps, en cette puissance les élus règnent, là où le salut est connu. Principe. La femme que le serpent a séduite, sa semence brise la domination du serpent. Réponse. La semence de la femme écrase la tête du serpent partout où il se trouve, dans tout homme ou toute femme, afin que Christ se lève dans l'homme et dans la femme. Et cette semence est au-dessus de votre tête, et vous n'avez aucun pouvoir sinon d'atteindre son talon, et vous êtes dans la maison des ténèbres, et la semence est encore en Égypte, pas encore sortie. Et il y a un homme fort qui doit se courber, et ceux qui gardent la maison doivent trembler, qui ont gardé votre cœur loin du Seigneur Dieu et l'ont entraîné à se prostituer au dehors. Et il est plus fort que celui qui garde la maison, lui qui pille ses biens et en prend possession, qui vient pour gouverner, et gouvernera et régnera. Principe. Que la manifestation de l'Esprit est donnée à tout homme dans l'Église pour l'utilité de tous, et non à tout homme dans le monde. Cet homme a déformé l'Écriture, ajoutant dans l'Église au mot « donné à tout homme ». Pourquoi s'obstine-t-il dans l'incrédulité à l'égard de l'Écriture, l'Esprit donné à tout homme? Parce qu'alors il n'y a aucune différence entre les pécheurs de leur secte et les pécheurs en dehors de leur secte, ils perdent leur distinction imaginaire qui existe parce qu'ils nient la possibilité d'être jamais délivrés du péché. Si tout homme dans le monde a la lumière, et si tout homme dans le monde a reçu l'Esprit, alors compte à offrir les sectes. Rien, parce qu'elles ne sont qu'une forme de piété sans la puissance de changer un homme pour qu'il devienne pieux, pur, saint, net et parfait. Et ainsi vous lirez dans ce livre comment les faux prophètes combattent constamment les Écritures qui témoignent que la lumière et l'Esprit sont en tout homme. Réponse. La manifestation est donnée à tout homme pour l'utilité de tous sans distinction. Je répandrai mon esprit sur toute chair, car l'esprit de vérité conduira les saints dans toute la vérité, et il reprouvera le monde, et ce qui reprend le monde est manifeste au monde. Principe. Qu'aucun homme n'a reçu une mesure de l'esprit de Christ, sinon ceux qui croient en Christ, et qu'aucun homme ne croit en Christ sinon ceux à qui Christ est révélé en son temps, et qu'il n'est révélé à personne sinon par la manifestation de son esprit. Réponse : les vrais croyants, qui croient en Christ la révélation, l'ont connu dans le temps et hors du temps, et les incrédules sont repris. Principe. Lesquels, parmi le peuple de Dieu, prophètes ou apôtres, ont dirigé tous les hommes vers une vraie lumière au-dedans d'eux pour leur instruction et pour guide, avant la manifestation de l'Esprit en eux, ou l'œuvre de régénération opérée en eux. Réponse. Le prophète a dit : je le donnerai comme alliance de lumière aux gentils, et je conclurai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda, et j'écrirai ma loi dans leur cœur. Et je la mettrai dans leur esprit, et cela leur fut en général adressé avant qu'ils fussent convertis et régénérés. Et cette lumière devait éclairer les gentils, par laquelle les prisonniers sortiraient de la fosse où il n'y a point d'eau. Et la nouvelle alliance fut présentée aux Juifs avant qu'ils fussent convertis, afin que tous voient ce qui ne. Et Christ a dirigé les pharisiens, qui n'étaient pas convertis, vers le royaume des cieux en eux. Lisez la perle, et la pièce d'argent perdue, lisez le talent, et la perle cachée dans le champ, lisez le serviteur paresseux son talent, puis lisez-vous vous-même, voyez combien vous êtes aveugle et ignorant dans les choses de Dieu, et taisez-vous, afin que vous veniez à connaître le Seigneur et sa crainte, afin que le témoin de Dieu s'éveille en vous, pour que vous agissiez avec justice devant Dieu et devant les hommes, de peur que le jugement de Dieu ne soit sur votre tête, car vous êtes manifeste à tous ceux qui sont dans la lumière. Les doctrines et principes des prêtres d'Écosse, contraires à la doctrine de Christ et des apôtres. Ici tous peuvent voir les prêtres d'Écosse et leur Église, et leur persécution contre les saints, et les agneaux, serviteurs et enfants de Dieu, que le Seigneur a poussés à aller parmi eux pour visiter la semence de Dieu dans ce pays de wilderness sombre, eux qui ont été comme des brebis parmi des loups. Aussi, comment la religion pure est renversée, et une religion vaine a pris sa place. Et la pure doctrine de Christ et des apôtres, qui disait « Accueillez les étrangers, aimez vos ennemis, c'est perdu parmi vous ». Au lieu d'accueillir les étrangers et d'aimer les ennemis, ils emprisonnent et persécutent, et ont rendu leur église insipide. Et les fruits des enseignants déclarent qu'ils sont faux, eux qui étaient des lutteurs contre la chair et le sang, et des frappeurs de créatures, ce que Christ et les apôtres ne faisaient pas. George Weah, John Hart, William Gray, William Lowry, William Mitchell et Richard Ismail. Premièrement, ces prêtres presbytériens d'Écosse, qui excommunient et chassent des synagogues, ne connaissent pas le Père et le Fils, Jean 16, 1, 2, ils ne sont donc pas de vrais chrétiens, car comment pourraient-ils être de vrais chrétiens, eux qui ne connaissent ni le Fils de Dieu ni le Père? Deuxièmement, ils ne sont pas ministres de Christ, car Christ a dit, « Quand ils vous maudissent, bénissez-les », ainsi ils sont hors de la doctrine et de l'enseignement de Christ, ne bénissant pas, mais maudissant et proférant des malédictions, et tout le peuple doit dire « Amen » à leurs malédictions. Troisièmement, ils sont hors de la doctrine de l'apôtre, qui a dit « Bénissez, et ne maudissez point », Rome 12, 14. Ainsi ils ne sont pas ministres de Christ, eux qui maudissent et répandent leurs malédictions afin que le peuple dise « Amen » à celle-ci, et ici ils sont exclus de la doctrine de l'apôtre et de celle de Christ. Que tous les gens marquent et prennent garde, ce sont eux qui maudissent, mais l'apôtre a dit « Bénissez et ne maudissez point, ce sont les maudisseurs et non les bénisseurs, eux qui vous excommunient hors des synagogues ». Hugh Watchball, prêtre de Stravon, John Hume, prêtre de Lesmaga, William Ambleton, prêtre de Glasford, James Durham, prêtre de Glasgow, John Caster, prêtre de Glasgow, Francis Hare, prêtre de Disser, Matthew McKell, prêtre de Bossel, Henry Forsyth, prêtre de Lingia, James Nesmith, prêtre d'Ambleton, Robert Sample, prêtre de Lesmaga, Thomas Gagne, prêtre d'Edinburgh, John Burney, prêtre de Hillbride. Hugh Watchball, prêtre de Stravon en Annandale. Voici ses principes. Principe, que Christ n'a pas éclairé tous ceux qui viennent dans le monde. Réponse, ce qui est contraire à la doctrine de Jean, Jean 1, 9, principe, que Christ n'éclaire que ceux qui le reçoivent et réponse. Contraire à Jean 3, 19, 20, parlant de ceux qui haïssent la lumière, et sont éclairés, et ne veulent pas venir à elle, parce que la lumière les reprouvera, ainsi celui qui est la lumière est éclairé, et ne recevra pas Christ, principe, que c'est un blasphème de dire que la vraie lumière éclaire et condamne le monde, réponse. Contraire à Jean 1, 9 et 3, 19 qui dit « C'est la vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Et voici la condamnation du monde, la lumière est venue dans le monde. » Principe. Dire que ce qui reprend le péché vient du ciel est un blasphème. Réponse. Contraire à Jean 16, 8 qui dit que c'est l'esprit qui reprend, qui vient du Père et du Fils qui vient du ciel. Principe. Il exalte une lumière naturelle, comme le soleil, la lune et les étoiles. Et la lumière de Christ était avant que ceci fût fait. Et il a dit, c'est un blasphème de dire que ceux qui faisaient les choses contenues dans la loi étaient bénis dans l'acte, et l'apôtre a dit, Les observateurs de la loi étaient justifiés, et il a dit qu'il livrerait les amis qui lui parlèrent à la merci du peuple. Réponse, sur quoi ils frappèrent amèrement avec des livres, des poings et des pierres pour détruire, mais quelques gens modérés et des soldats arrêtèrent la persécution. John Hume, prêtre de l'Esmaga, ses principes suivent, il entra dans une maison à clocher et ferma la porte sur lui, ainsi il enseignait le peuple, principe. Ce qui devait être connu de Dieu était manifesté par les choses qui sont créées, réponse. Contrairement à la doctrine de l'apôtre, Romains 19-20, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste révélé en eux, car les choses invisibles de lui, depuis la création du monde, se voient clairement, étant comprises par les choses qui sont faites, savoir sa puissance éternelle et sa divinité, en sorte qu'ils sont inexcusables. Ainsi, avec ce qui est de Dieu en eux, ils connaissent les choses invisibles depuis la fondation du monde, et avec cela ils voient la divinité, principe, que Dieu devait être connu par les choses qui ont été faites, comme le soleil, la lune et les étoiles, réponse. Mais Jésus-Christ a dit, Matt 11, 27, « Nul ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler, et les païens ne connaissent pas Dieu, et les Juifs n'avaient pas vu sa forme. » Et ses serviteurs et ses ouvriers jetaient de l'eau, des pierres et de la chaux, et persécutaient, et salissaient, et maltraitaient le peuple appelé Quakers, et ils ont jeté une bassine pleine d'eau sur le cou d'un soldat, et lui, le dit prêtre, ne les a jamais repris, et voilà les fruits de lui et de sa propre famille, au lieu de gravité. Il n'est pas étonnant que toute la paroisse soit en désordre, quand sa propre famille est ainsi. Ainsi c'est quelqu'un que la doctrine de l'apôtre reprend, 1 Tim 3, 4, 5, qui a dit, « Si tu ne sais pas gouverner ta propre famille, comment prendras-tu soin de l'Église de Dieu ?» Henry Forside, prêtre de la paroisse de Lingia dans le Dumbartonshire, a dit dans sa prédication au peuple, principe, « S'ils avaient le zèle chrétien, ils lapideraient ce qu'ils appellent Quakers, réponse. » C'est le zèle aveugle qui lapide, et non le zèle du chrétien qui a la vie de Christ, car le zèle chrétien consiste à prier pour ceux qui persécutent, Matt 5, 44, et non à les lapider et à aimer ses ennemis. C'était le zèle des Juifs qui prit des pierres pour lapider Christ, John 8, 59, ils lapidèrent Étienne, Actes 7, 58, 59, et lapidèrent les apôtres, Actes 14, 19. En cela, les presbytériens ont montré que leur christianisme est hors de Christ et des apôtres, principe. Si Paul et les autres apôtres avaient été vivants, ils auraient lapidé les Quakers, réponse. Ici tous peuvent voir que son œuvre est l'œuvre de l'homme envieux, dans la voix de Caïn, Jude 1, 11, qui voudrait assassiner et faire tort à l'apôtre, lequel n'a jamais enseigné ni eu l'intention d'une telle doctrine, mais a dit « vainque le mal par le bien ». Rome 12, 21, « Et l'amour supporte tout », 1 Cor 13, 7. Voyez maintenant de quel ministre est cet homme, qui ne peut supporter mais voudrait qu'on les lapide, et voudrait rendre l'apôtre aussi mauvais que lui. Cet apôtre qui a dit, Christ était son exemple, lui qui a donné sa vie pour ses ennemis, Rome 5, 8, qui a souffert l'opposition des pécheurs, qui ne rendait le mal à personne, mais au contraire, le Seigneur Jésus dit, pardonne-leur. Luc 23, 34. Et l'apôtre a dit qu'il ne luttait pas contre la chair et le sang. F 6, 12. Mais toi et ceux qui lapident, ne luttez-vous pas contre la chair et le sang? Et si les apôtres avaient lapidé, n'auraient-ils pas lutté contre la chair et le sang? Et si les apôtres avaient dû lapider tout ce qui était contraire à leur pensée, et dire au peuple de les lapider, et leur dire que c'était du zèle chrétien, quelle œuvre auraient-ils faite, comme le fait le dire Henry Forside, appelé ministre? Où serait la longanimité patience, Galles 5, 22, et l'amour des ennemis? Matt 5, 44, et où aurait-il eu quelqu'un à convertir, qui aurait été persécuteur, qui aurait prié pour les persécuteurs, vous pouvez voir dans quelle fosse vous êtes tombés. Et comment auraient-ils convaincu les contradicteurs, Titus 1, 9, et les auraient-ils aimés lorsqu'ils les avaient lapidés? Et voilà le zèle presbytérien d'Écosse, et non le zèle chrétien, lui qui voudrait lapider et exciter sa congrégation à le faire. Car Christ, qui est revêtu de zèle, Isa 59, 17, a dit, « Aimez vos ennemis, mais vous êtes revêtus de folie et de sottise. » Et l'apôtre, qui avait un zèle selon la connaissance, a dit « Vainque le mal par le bien », Rome 12, 21, « et la vengeance appartient au Seigneur, et il la rendra », Rome 12, 19. Et l'amour supporte tout, mais son zèle aveugle ne peut rien supporter, écrit « Lapidez-les, ôtez-les du chemin », et avec méchanceté et diaboliquement, appelle cela zèle chrétien ce qui est faux, c'est-à-dire le zèle du diable. Or les apôtres ne luttaient pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres, F6, 12, mais les presbytériens, appelés ministres, frappent contre la chair et le sang, tandis que vous voudriez les lapider, la méchanceté spirituelle est en vous. Ainsi, vous prêtres presbytériens, vous êtes comme une troupe de brigands qui, d'un commun accord, voudraient assassiner en chemin. O 6, 9, James Dorham, appelé ministre de Glasgow, ses principes, que les croyants, même les vraiment pieux, ne sont pas sans péché en cette vie. L'homme affirme que les pécheurs sont vraiment pieux s'ils croient. Peut-être alors, ce ministre devrait-il nous dire que les démons sont pieux parce qu'ils ne se contentent pas de croire, ils tremblent et se jettent à terre devant Jésus en implorant miséricorde, ils croient réellement donc peut-être sont-ils vraiment pieux. Réponse. Voici quelqu'un qui accuse les élus et impute le péché aux élus que Dieu justifie, Romains 8:33, en disant qu'il devrait y avoir du péché dans les pieux. Le péché est hors des pieux, mais dans les impies, qui changent la grâce de Dieu en débauche une licence pour l'immoralité. Et quel bien sa prédication leur fait-elle, s'ils ne doivent jamais être sans péché? Tant qu'ils sont sur la terre, ils ne peuvent être que dans leur péché s'ils ne leur prêchent jamais autre chose. Mais l'Écriture dit, « Celui qui croit est né de Dieu, et celui qui est né de Dieu ne peut pécher parce que sa semence demeure en lui. » 1 John 5:1-3:9. Mais cela relève pour lui d'un autre monde, lui qui s'appelle James Dorham, ministre de Glasgow, ministre des Ténèbres, qui ne fait aucune différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. 1 John 3:10. Ils veulent qu'il y ait du péché tant qu'ils sont sur la terre, et cela c'est les ténèbres. Mais les apôtres ont dit qu'ils avaient été affranchis du péché, Romains 6:22, tandis qu'ils étaient sur la terre. Principe. Christ étant sans péché le sépare de tous les autres. Oui, et Christ est séparé de tous les pécheurs, qu'ils soient dans une secte ou non. Tant qu'un homme n'a pas été lavé et purifié par Christ, il ne peut se joindre à lui, car cela le corromprait. Ce que Christ est venu prêcher, c'est la repentance avec délivrance de l'esclavage du péché, la liberté à l'égard du péché, la destruction du péché en l'homme. Réponse, Christ étant séparé des pécheurs, Hébreux 7:26, ceux qui sont en Christ sont séparés des pécheurs et du péché l'un et l'autre, 2 Corinthiens 6:17. Mais ce James Dorham a rendu l'offrande sans effet, Hébreux 10:14, elle qui a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et il a rendu le sang de Jésus sans effet, lui qui purifie de tout péché, 1 John 1:7. Et il a rendu l'alliance éternelle sans effet, laquelle efface tous les péchés et les transgressions. Et il a rendu la foi du Fils de Dieu sans effet, elle qui purifie le cœur et donne la victoire sur le monde, Actes 15:9, 1 John 5:3-4. En cela vous prêchez et vous soutenez le péché, au lieu de le renverser par la prédication. Vous dites que vous ne prêchez pas pour le soutenir, et pourtant vous prêchez qu'ils doivent l'avoir tant qu'ils sont sur la terre. Voilà la perversité de votre langue, Proverbes 17:20. Vous auriez dû le renverser par la prédication, et si vous étiez un vrai ministre, les conduire à une église où il n'y a ni tache, ni ride, ni défaut, ni rien de semblable, Ephésiens 5:27. Mais votre église est pleine de taches, de défauts et de rides, tandis que vous prêchez le zèle de lapider les gens, et le péché tant qu'ils vivent, comme le font Henry Forsyth et James Dorham. Principe, Dieu soit remercié, l'Écriture ne dit rien en faveur de la liberté à l'égard du péché et de la perfection. Réponse, vous remerciez Dieu de pouvoir vivre dans votre péché et votre imperfection, et vous vous réjouissez de cette fausse espérance. Mais vous êtes un menteur, vous êtes hors de la vérité en cela, car l'Écriture dit qu'ils ont été affranchis du péché, Romains 6:18-22. Et il parlait de sagesse parmi ceux qui étaient parfaits, 1 Cor 2:6, et il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés, Hébreux 10:14. Ainsi, l'Écriture parle de la liberté à l'égard du péché, et de la perfection, principe, que la puissance condamnatoire du péché est ôtée, réponse. Le croyant ne pèche pas, 1 John 5:1-3:9. Mais celui que le croyant vainc commet le péché, 1 John 3:8 et 1 John 5:5, et si le croyant commet le péché, qui donc vainc le croyant, et ainsi, celui qui commet le péché est sous la puissance condamnatoire du péché, ce dont vous et tous les autres serez témoins. Principe, le croyant n'est pas dans le péché comme l'incroyant l'est, il ne pèche pas comme l'incroyant pêche, et ailleurs il a dit, la loi est la même pour le croyant que pour l'incroyant. Réponse. Ici chacun peut lire votre confusion, mais je vous dis, celui qui croit ne commet pas de péché. Or l'incrédulité est un péché, Romains 14:23, et Christ est la fin de la loi pour quiconque croit pour la justice, Romains 10:4, et pourtant vous mettez croyant et incroyant sous la loi. Lodowick Simmel, prêtre de la nouvelle paroisse de Minclan, ses principes et doctrines, principe. Que c'est un blasphème de dire que la lumière en l'homme, qui reprend le péché, est la lumière de Dieu, est parfait, est le don de Dieu. Réponse. Contraire à l'Écriture, contraire aux paroles de Christ, et contraire aux paroles des apôtres sont votre doctrine et votre principe. Car tout don de Dieu est parfait, Isaïe 42:6, Isaïe 49:6, John 1:3-4, John 4:10. Car Christ est le don de Dieu, et il le donnera comme alliance de lumière aux Juifs et aux gentils, lumière qui éclaire tout homme venant au monde, à laquelle vient quiconque fait la vérité, mais quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière parce que la lumière le reprendra. Et ainsi, voici la condamnation du monde. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plutôt que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ainsi cette lumière est parfaite, elle qui reprend tout homme de péché, et elle vient d'en haut, et elle est le don de Dieu, et vous êtes aveugles et dans les ténèbres, vous qui ne la comprenez pas. et la lumière qui éclaire tout homme venant au monde, Christ Jésus, don de Dieu, lui par qui le monde a été fait, cette lumière est avant que toute lumière naturelle fût faite, soleil, lune ou étoile. Car toutes choses qui ont été faites par la lumière, laquelle est venue comme une lumière dans le monde, afin que tous croient par lui. Car celui qui ne croit pas en la lumière est déjà condamné, et celui qui croit en la lumière a le témoignage en lui-même pour sceller que Dieu est vrai, et l'esprit de vérité qui reprend. La lumière, dont est éclairé tout homme venant au monde, n'est pas la conscience, car la lumière était avant que quoi que ce soit fût fait, ou que la conscience fût nommée. Ainsi, la lumière est ce qui exerce la conscience envers Dieu et envers l'homme, là où elle est aimée et où la voix est entendue. Mais là où elle est haïe et où la voix n'est pas entendue, la conscience est cautérisée, et la lumière est leur condamnation, à ceux dont les consciences sont cautérisées, lumière qui était avant que la conscience ne fût. Le prêtre ne voudrait pas que dit et thou désignent une seule personne, et il en est ainsi de l'homme qui ne supporterait pas des paroles saines, lui qui ne peut être condamné. Dit et thou était le langage entre Dieu et ses saints, et entre eux, et you s'adresse à plusieurs, et dit à un seul. Et c'était le langage entre Jephthé et sa fille, et entre les saints et les rois. Cela montre que vous n'avez appris ni les rudiments de grammaire, ni la Bible, et que vous n'êtes pas parvenu à la forme de saines paroles. Au XVIII siècle, les livres de grammaire prescrivaient d'employer « diédao » pour s'adresser à une seule personne, mais les « hommes importants » exigeaient qu'on s'adresse à eux au pluriel « you ». John Caster, appelé ministre de Glasgow, ses principes, principes. C'est le devoir des gens naturels de prier Dieu et de l'adorer, bien qu'ils se maintiennent pécheressement sous une nécessité pécheresse de pécher contre Dieu par ignorance. Réponse. Voilà ce qu'a été votre œuvre, maintenir les gens dans l'ignorance, ce dont vous devriez avoir honte. Un homme naturel ne peut adorer Dieu, car il ne peut recevoir les choses de Dieu, pas plus qu'un homme pécheur, mais il adore le diable, car celui qui commet le péché le sert, et celui qui sert le péché sert le diable, et il l'adore, John 8, 34. Et Christ a dit que les pharisiens recevraient une condamnation plus grande, à cause de leur longue prière prétendue, Matt 23, 14. Ainsi, il ne les justifia pas dans leur longue prière, mais les reprit, et dit, « Malheur à ceux qui s'approchent des lèvres, tandis que leur cœur est loin, Isa 29, 13. » Et ceux qui prient et adorent Dieu doivent prier dans l'esprit, 1 Corinthiens 14, 15, et adorer dans l'esprit, ce dont le diable est dépourvu, John 4, 21, principe. Si le premier commandement est en vigueur, et s'il est en vigueur négativement, il est aussi en vigueur positivement, tu m'auras pour ton Dieu, et tu dois m'adorer. Et s'il ne prie pas comme il le devrait, qu'ils en répondent, car ce n'est pas un péché en soi. Réponse. Les enfants d'Israël, à qui les commandements furent donnés, connaissaient Dieu, mais les païens ne le connaissent pas. Ici tous peuvent voir avec quelle mesure vous mesurez. Et de plus, vous dites que même s'il ne prie pas comme il devrait, ce n'est pas péché. Prier comme il devrait et comme il ne devrait pas, est-ce la même chose? Par là, invoquer Dieu des lèvres, le cœur n'étant pas droit, et justifier les prières et le sacrifice des méchants, Prov 15, 8. Et si quelqu'un prie comme il ne devrait pas, n'est-il pas condamné pour cela? Et si prier comme il ne devrait pas n'est pas péché, alors ils font comme ils devraient, principe. Si les gens ne doivent pas prier parce qu'ils en sont incapables, alors un croyant ne se trouvant pas dans une bonne disposition peut s'abstenir de ses prières. Réponse. Un croyant est un enfant de Dieu, et son cri est juste, sa prière est juste, et son gémissement est juste, 1 John 5, 1. Et tout homme venant au monde, étant éclairé, et venant à la lumière qu'il a éclairée, 1 John 1, 5, 7, en cela il doit veiller et prier, ce qui le conduit au-delà de l'état naturel. Cela sera accepté selon le degré, mais celui qui est la lumière, sa prière n'est pas acceptée, elle est dans l'hypocrisie, principe. L'apôtre a dit à Simon le mage, une vieille sorcière, de prier. Et maintenant, y a-t-il une raison de dire que nous disons aux gens de pécher, quand nous leur disons de prier, bien qu'ils soient grossièrement ignorants? Réponse. L'apôtre lui a dit, « Repens-toi, Actes 8, 22, et il était conscient d'avoir péché. Et ce qui rend un homme conscient du péché le conduit à prier correctement et le détourne de la sorcellerie. Ainsi vous ne faites aucune différence entre ce qui est précieux et ce qui est vil, Ézéchiel 22, 26, entre ce qui est accepté et ce qui ne l'est pas. Et Henry Forside, qui aurait voulu que son peuple lapide les Quakers, et appelle cela zèle chrétien, voudrait que son mur soit dressé afin de vivre en sécurité, lui qui assassine et voudrait être maintenu dans son état meurtrier, et voudrait que les puissances de la terre soient ses bourreaux et ses bêtes de somme. Mais le Seigneur leur ouvre les yeux, afin qu'ils n'exécutent pas sa malice, bien qu'il excite le peuple à le faire. Ainsi tous peuvent voir que ce n'est pas l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, mais l'œuvre du meurtrier, et de celui qui s'enivre du sang des saints, Rêve 17, 6, jusqu'à chanceler de nouveau dans sa folie. Et Christ a appelé ceux qui prirent des pierres pour le lapider des enfants de leur père le diable, car ils accomplissaient ses convoitises, John 8, 44. Et vous qui voudriez que le peuple lapide, et appelez cela zèle chrétien, vous avez manifesté votre Père, et que vous êtes du diable, qui fut meurtrier dès le commencement. Vous êtes les serpents et les vipères qui voudraient tuer pour remplir la mesure de vos pères, Matt 23, 32-33, et persécuter de ville en ville. Et traîner hors des synagogues, John 16, 2, afin que tout le sang juste versé depuis le juste Abel vienne sur vous, Matt 23, 35. Et vous êtes ceux qui tuent les corps des saints, et répandent le sang juste noté, le sang juste, afin que le sang juste soit sur vous. Et Caïn tua Abel parce que le sacrifice d'Abel était accepté et le sien ne l'était pas, Gênesis 4, 3-8. Ainsi c'est à propos du sacrifice et du culte que vous voudriez assassiner et tuer. Ainsi vous êtes dans la voie de Caïn, une compagnie de vagabonds, dont Dieu n'a aucun égard pour le sacrifice. Même si nous étions vos ennemis, vous n'enseigneriez pas au peuple à nous lapider, si vous étiez des ministres de Christ, mais vous nous aimeriez, Matt 5, 44, et vous nous feriez du bien. Si les apôtres avaient enseigné au peuple à lapider tous ceux qui étaient contraires à leurs pensées, et si Christ avait enseigné à ses disciples à lapider tous ceux qui étaient contraires à leurs pensées, et leur avait dit que c'était du zèle chrétien. Mais vous pouvez voir que Christ et ses apôtres ont enseigné une autre doctrine, aimez vos ennemis, tandis que vous enseignez à les lapider eux qu'on appelle par dérision Quakers, contrairement à Christ et à ses apôtres. Nous concluons donc que c'est la doctrine du diable, et non la doctrine de Christ. Car le vrai zèle chrétien n'a jamais enseigné à lapider, mais il a été lapidé. Les prêtres appelés presbytériens ont assigné certaines personnes appelées Quakers à comparaître devant eux, et elles entrèrent dans la maison au clocher où ils se réunissaient. Et James Nasmyth, prêtre de Hambleton, leur dit de se retirer et s'en aller, sinon il les ferait se retirer par la loi du gourdin. Et ils demandèrent aux prêtres presbytériens leurs accusateurs, et Francis Haar, l'un des prêtres, dit qu'ils étaient à la fois accusateurs et juges. Voyez maintenant si c'est équitable que les mêmes qui assignent soient à la fois accusateurs et juges, et lorsqu'ils ont assigné, accusé et jugé, qu'ils disent qu'ils les feront se retirer par la loi du gourdin, si ce ne sont pas des brutes et des bêtes, et non des justiciers. Ils ne sont pas aptes à juger, ni à porter le nom de ministre et de juge, ceux qui feront déguerpir les gens par la loi du gourdin. Et les Quakers ne pouvaient pas les reconnaître comme juges, ni ne les considéraient comme des hommes d'équité. Mais ils auraient voulu qu'ils leur accordent une rencontre en quelque lieu, par laquelle la vérité pourrait être éclaircie et venir à la lumière, eux qu'ils avaient scandalisé, diffamé, ce qu'ils refusèrent, et que des témoins légaux puissent entendre, mais ils refusèrent, et les firent mettre en prison par la main d'un huissier. Et voilà l'autorité des prêtres presbytériens, qui ont assigné avec la loi du gourdin. Mais cela est refusé par la doctrine de l'apôtre, 1 Tim 3, 3, ils ne doivent pas être violents frappeurs, ni faux accusateurs, 2 Tim 2, 3. Telles sont les armes des prêtres presbytériens d'Écosse, la loi du gourdin, contraire au ministre de Christ, eux disaient, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, et ils ne doivent pas être violents, F6, 12. Et après les avoir poussés violemment en prison, une fois leur volonté satisfaite par la violence, ils les en rejetèrent, là vous pouvez sentir l'esprit de méchanceté. Et ces prêtres presbytériens adressent des pétitions aux magistrats, sous prétexte qu'ils pourraient ne pas être coupables du sang d'autrui. Ce prétexte est dans leurs pétitions, pour ôter leurs craintes, afin que leur paix méchante ne soit pas troublée, sans égard pour leur sang. Témoin James Nasmyth, prêtre, qui voulait les faire se retirer par la loi du gourdin. Ainsi leur pétition n'est que flatterie et tromperie, sous prétexte de ne pas être coupable de leur sang, alors que leur cœur est de répandre le sang. Témoin Henry Forsyth, prêtre, qui excitait le peuple par zèle à les lapider. Ces prêtres presbytériens ont établi la loi du gourdin et la persécution contre les Quakers, et ne voudraient que personne les reçoive dans ses maisons. Voilà donc une doctrine abominable, contraire à l'apôtre, dont vous avez foulé aux pieds la doctrine, lui qui a dit « N'oubliez pas l'hospitalité envers les étrangers, car par elle quelques-uns ont, sans le savoir, hébergé des anges. » Hébreux 13:2. Ils disent encore qu'ils n'ont pas de demeure certaine. Ces presbytériens, avec leur loi du gourdin et leurs excommunications, qui disent que les Quakers n'ont pas de demeure certaine, pourraient dénoncer les apôtres, qui n'avaient pas de demeure certaine, ainsi que Christ, qui n'avait pas où reposer sa tête, Luc 9:58, et Abraham, qui n'avait pas un pied de terre, Gênesis 12:1-10. Mais Caïn, le vagabond, bâtit une ville, dont vous êtes du troupeau et de la descendance, Gênesis 4:17. Et David a dit, que leurs enfants soient vagabonds, Psaume 109:10, et ainsi cela s'accomplit sur vous. Et vous, prêtres presbytériens, avec votre loi du gourdin, qui voudriez chasser à coups de gourdin ces gens qu'on appelle par mépris Quakers, vous voudriez un ordre des juges, pour que nul ne reçoive les Quakers dans sa maison et pour les priver de leur liberté. Et cela est contraire aux droits des nations. Et c'est une doctrine damnable, par laquelle vous empoisonnez le peuple et l'excitez à la folie et à la sottise, et au lieu de leur enseigner la paix, vous leur enseignez la crêle, et au lieu de s'aimer les uns les autres, vous leur enseignez à se battre les uns contre les autres. Et Henry Forsyth, prêtre, crie, lapidez-les. Et James Nasmyth, prêtre, crie pour la loi du gourdin. Et William Hambleton, prêtre de Glasford, a dit à Andrew Brown, « Si les lois étaient justes, il couperait la tête à tous les Quakers. » Par les paroles de William Hambleton, la loi est donc injuste parce qu'elle n'accomplit pas son dessein et son envie. Ici tous peuvent voir que vous faites l'œuvre du diable à la chasse au sang, dont l'envie, la folie et la sottise apparaissent à tous les hommes. Ce que vous ne pouvez faire vous-même, vous exhortez le peuple à le faire. Et ce que vous et le peuple ne pouvez faire, vous priez les magistrats de le faire, afin que tout le sang juste vienne sur vous. Matthieu 23:35. Hélas pour vous, pauvres prêtres sots et presbytériens furieux, est-ce là votre œuvre, que de pousser les gens à lapider, d'exalter la loi du gourdin, et de prôner une loi pour leur couper la tête? Est-ce ainsi qu'on les convertit? N'est-ce pas là la manière papiste de les convertir? Vous devriez aller les convertir, les instruire, les convaincre, les aimer, amasser sur eux des charbons de feu. Matthieu 5:12. Vainque le mal par le bien. Romains 12:21. Priez pour eux. Matthieu 5:44. Non, vous criez, coupez-leur la tête, suppliant par des pétitions que nul ne les reçoive dans sa maison. Lapidez-les, fondés sur eux par la loi du gourdin, afin que votre sottise et votre folie soient manifestées, et vous les emprisonnez, ainsi que ceux qui les reçoivent dans leur maison. Par exemple, vous avez fait emprisonner John Hart, du hameau de Reds of Glasford, et Jenny Hambleton, veuve de Westmenice, pour les avoir reçus dans leur maison. Vous avez ainsi prouvé que vous êtes les loups parmi lesquels les brebis sont envoyées, Matthieu 10:16, qui cherchent à les dévorer, ce qui est l'une des marques que vous êtes les faux prophètes dont Christ a dit qu'il viendrait, Matthieu 7:15. Et vous les traînez hors des synagogues, et vous les excommuniez, sans jamais montrer pourquoi. Vous êtes dans cette pratique, qui est une œuvre de ténèbres. Et dans ce marché, selon lequel les magistrats leur accorderaient un ordre pour que nul ne les reçoive dans sa maison et pour qu'ils n'aient pas leur liberté, leurs serviteurs en seraient fort rafraîchis, eux qui crient « Lapidez-les, donnons-nous une loi contre eux », et si les lois étaient justes, ils leur couperaient la tête et les feraient déguerpir par la loi du gourdin. Mais comment ces prêtres furent-ils les serviteurs des magistrats lors de la bataille de Dunbar, quand ils excommunièrent et maudirent leur armée et leur magistrature, mais maintenant ils voudraient être leurs serviteurs? Si ceux-ci exécutaient leur volonté contre les innocents, assurément, ces choses ne peuvent que puer aux yeux de tous les magistrats qui craignent Dieu. Ce sont les serviteurs et commis du temps, que les prophètes appellent enchanteurs, Lev 19:16, et cela pour leur propre fin mensongère. Vous ne pourrez jamais lire que les apôtres ni Christ aient enseigné une telle doctrine, que le peuple doive être lapidé, ou avoir la tête tranchée, ou être chassé par la loi du gourdin. Ce qui montre que vous êtes des apostats des apôtres et de nature juive. Le synode de Glasgow, au second mois, a ordonné au sujet de ces personnes de Clydale, auparavant excommuniées, qu'on appelle Quakers, que nul autre dans d'autres paroisses ne traite avec elles, ni ne leur permette d'entrer dans leur maison, ni ne leur donne gîte contre argent. À la suite de quoi, le peuple les persécuta et les lapida, et les traîna hors de leur maison en divers lieux. À savoir, trois de ces gens appelés Quakers furent de nuit, entre 10 et 11 heures, tirés de force hors d'une auberge dans la ville de New Mill en Ayrshire, et lapidés hors de la ville jusque dans les champs, afin qu'ils se débrouillent pour leur logement. Et d'autres, à trois reprises distinctes, furent battus, lapidés, honteusement traités et persécutés à Strawan. Et d'autres à Lismorog, et d'autres honteusement maltraités dans la ville de Kirkintilloch, et d'autres lapidés à Kilbride, et d'autres pitoyablement lapidés, battus et maltraités, et du sang fut versé à Glasford. Et en beaucoup d'autres lieux, beaucoup de mal a été fait. Voilà les fruits des prêtres, la presbytérie sanglante, qui voudrait qu'ils soient lapidés et qu'on leur coupe la tête. Quelques magistrats ont arrêté le peuple dans ses abus, de sorte que la malice des prêtres ne fut pas entièrement assouvie. Andrew Brown et John Lowcock de Glasford furent jetés en prison pour lui avoir posé une question pendant qu'ils catéchisaient, et il les admonesta en leur absence, et dit que s'ils comparaissaient devant eux, il les jetterait en prison. Cela fait de des épieurs et des marmonneurs pour les admonester lorsqu'ils ne sont pas présents. Et est-ce là de nature à les changer, ou entendent-ils les changer, eux qui les admonestent hors de leur portée d'entendre, et les excommunient alors qu'ils étaient en prison? Quelle conduite indigne d'homme, de la part de ce ministère méchant, diabolique, envieux et non chrétien! Et John Hart alla dans une maison au clocher pour entendre l'admonition du prêtre, car le prêtre avait dit qu'il l'admonestrait, et il alla l'entendre. Et après qu'il l'eut admonesté, il lui parla et lui dit de se prouver lui-même dans la doctrine de Christ, et de prouver que ceux qu'il avait admonesté en étaient hors, puis il leur donna un acte de divorce. Mais le prêtre alla au tribunal et obtint un mandat du juge, et ainsi le fit jeter en prison, et lorsqu'il fut en prison, il l'excommunia et dit qu'il le troublait. Et ici paraît sa méchanceté diabolique et ses doctrines, qui montrent qu'il est de la race de Caïn, où il n'y a rien que persécution, meurtre et tueur envieux, vagabond et maudisseur. qui marchèrent dans la voie de Balaam ou de Corée, qui font marchandise du peuple par leurs convoitises et par des paroles feintes adressées au peuple, et qui profèrent leurs malédictions dans leur congrégation, et tout le peuple doit dire Amen comme suit. La première malédiction des prêtres, à laquelle tout le peuple devait dire Amen, principe, maudits soient tous ceux qui disent que la grâce est gratuite et que tout le peuple dise Amen, réponse. Ainsi ils maudissent les apôtres et la doctrine des apôtres et tous ceux qui en témoignent, eux qui ont dit, la grâce gratuite de Dieu, qui apporte le salut, est apparue à tous les hommes, Titus 2:11-12 et fut le maître des saints. Les apôtres ont commandé d'enseigner ces choses avec toute autorité, Titus 2:15, mais les hommes impies changent cette grâce de Dieu en débauche, eux qui, dès longtemps, sont destinés à la condamnation. Vous êtes les vagues furieuses de la mer, rejetant et faisant écumer votre propre honte, dont les fruits se flétrissent, négligeant le salut commun, lisez Jude. Vous êtes comme Sodome et l'Égypte des nuées sans eau, courant avidement après le salaire de Balaam, allant dans la voie de Caïn, et vous périrez dans la contradiction de Corcora, et marchant malgré l'esprit de grâce. Et ceux qui changent la grâce de Dieu en débauche ni le Seigneur qui les a rachetés, 2 Pé 2:1-17, Jude 1:4-11-12. Vous êtes des arbres sans fruits, des puits sans eau emportés par les tempêtes maudisseurs, enseignant au peuple à dire Amen à vos malédictions contre la doctrine des apôtres, et ainsi volontairement ignorant, afin que votre damnation soit juste, et que votre folie et votre sottise paraissent à tous, et ainsi vous êtes sensuels n'ayant pas l'esprit, vagues de la mer, étoiles errantes, réservées pour la noirceur des ténèbres à jamais. Lisez Jude 1:13-16-19. La grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, Titus 2:11. Ainsi ce qui apporte le salut et est apparu à tous les hommes, vous le maudissez. C'est la grâce de Dieu que vous, par votre doctrine damnable et doctrine de démon, maudissez ainsi que ce qui en témoigne, 2 Pé 2:1-4:1-2 sur les consciences desquelles est venu le fer chaud, qui a endurci ceux qui se sont tournés vers la doctrine des démons, ceux qui ne présentaient pas le sauveur de tous les hommes, 1 Tim 4:10-12, ordonne et enseigne ces choses, que personne ne méprise ta jeunesse. Or ceux qui se sont tournés vers la doctrine des démons, en s'éloignant du Sauveur des hommes, mais surtout de ceux qui croyaient, et en s'éloignant de la grâce de Dieu apparue à tous les hommes, qui apportent le salut, sont ceux qui ont changé la grâce de Dieu, qui est la lumière, en débauche, eux qui dès longtemps sont destinés à la condamnation, Jude 1:4. Ceux-là sont dans la voie de Caïn, loin du commandement de Dieu, dans la voie de Cor, loin de la vérité, et dans la voie de Balaam, loin de l'esprit, ceux-là sont les nuées et les tempêtes sur la tête desquelles vient le malheur. La deuxième malédiction des prêtres, à laquelle tout le peuple devait dire Amen. Maudits soient tous ceux qui disent que l'Écriture n'est pas la parole de Dieu, et que tout le peuple dise Amen. Réponse. Ici ils ont maudit Luc, qui appelle l'Écriture une déclaration de la parole, Luc 1:1, et Actes 1:1, où elle est appelée un traité récit. Et ils ont maudit leur propre compagnie, qui dit que les Écritures signifient des écrits, et ils ont maudit Jean, qui n'a pas dit que l'Écriture était la parole, mais a dit, « Au commencement était la parole, John 1, et l'Écriture ce sont des paroles, comme à la fin de l'Apocalypse, celui qui ajoute aux paroles, et le nom de Christ est appelé la parole de Dieu, Rev 19:13-16. Et les Écritures sont des paroles, non une parole, Exo 20:1-17, parole que Christ est venu accomplir, la troisième malédiction des prêtres à laquelle tout le peuple devait dire Amen. Maudits soient tous ceux qui disent que la foi est sans péché, et que tout le peuple dise Amen. Réponse. La foi est le don de Dieu, et le don de Dieu est sans péché, F2:8. La foi est ce qui donne la victoire, 1 John 5:4, et ce qui donne la victoire est sans péché. Et ici ils ont maudit les apôtres et leur doctrine, eux qui disent que la foi est sans péché, et que la foi est précieuse, 1 Pé 1:7, et ce qui est précieux est sans péché. La foi est le don de Dieu, et le don de Dieu est parfait, et ce qui est parfait est sans péché, et donne la victoire sur le péché. Sans la foi, un homme ne peut plaire à Dieu. Et ce par quoi les hommes plaisent à Dieu est sans péché, Hébreux 11:6. Ainsi vous avez maudit l'apôtre et sa doctrine, le juste et ce qui est pur, ce par quoi ils furent guéris, par la foi ils furent justifiés, Romains 3:28, et ce qui n'est pas de la foi est péché, Romains 14:23. Ainsi ce qui est de la foi n'est pas péché, et ce qui est juste n'est pas péché. Et l'Écriture parle de la justice de la foi, Romains 4:13. La foi n'est pas du péché, mais ce qui n'est pas de la foi est péché. La foi donne la victoire sur le péché, 1 John 5:4, dans cette foi l'homme est justifié et a la paix avec Dieu, Romains 5:1, et c'est un mystère gardé dans une conscience pure, 1 Tim 3:9, la quatrième malédiction des prêtres à laquelle tout le peuple devait dire Amen. Maudits soient tous ceux qui disent que tout homme a une lumière suffisante pour le conduire à Christ, et cela en lui, et que tout le peuple dise Amen. Réponse, ici ils ont maudit la doctrine de l'apôtre, qui a dit que Dieu habiterait en eux, 2 Cor 6:16, et Christ en vous l'espérance de la gloire, Col 1:27, et Dieu est lumière, 1 John 1:5. Et ils ont maudit les prophètes qui ont dit, je le donne pour alliance, chef du peuple. J'habiterai en eux et je marcherai en eux, dit Dieu. Isa 55:3-4, Gère 31:31, Heb 10:16, De Cor 6:16. Et il a dit, « Je vous enverrai l'Esprit de vérité, et il vous conduira dans toute la vérité. » John 14:16-17, John 16:13, « Et je serai leur Dieu pour les gouverner, et ils seront mon peuple. » Jer 31:33. Vos malédictions ne sont que du vent, car nous avons été rachetés de la malédiction. Et les apôtres ont dit, la lumière qui a brillé dans leur cœur devait leur donner la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Jésus-Christ, 2 Cor 4 6. Et ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, Rome 8 14, et la lumière pour guider nos pieds dans le chemin de la paix, et celui qui a le Fils a aussi le Père. Et si quelqu'un apporte une autre doctrine, ne le recevez pas dans vos maisons, et ne lui souhaitez pas bon voyage, 2 John 1 10. Vous vous êtes ici montré dans un état maudit, hors de la règle des apôtres, hors du même esprit de vérité qui a conduit les disciples dans toute la vérité, lui qui reprendra le monde au sujet du péché, John 16 8 13, du journal de George Fox, Fox parle. Il y avait deux églises indépendantes en Écosse, dont l'une comptait beaucoup de convaincus, mais le pasteur de l'autre était dans une grande fureur contre la vérité et contre les amis. Ils avaient leurs anciens, qui parfois exerçaient leurs dons parmi les membres de l'église, et étaient parfois assez tendres, mais leur pasteur, parlant tant contre la lumière et contre nous, les amis du Christ obscurcissaient ses auditeurs, de sorte qu'ils devinrent aveugles et secs et perdirent leur tendresse. Il continua de prêcher contre les amis et contre la lumière de Christ Jésus, la qualifiant de naturelle. Finalement, un jour, dans sa prédication, il maudit la lumière et tomba comme mort dans sa chair. Le peuple l'emporta, le déposa sur une pierre tombale et lui fit avaler des eaux de vie, ce qui le ramena à la vie. Puis ils le ramenèrent chez lui, mais il était sans esprit. Après quelque temps, il ôta ses vêtements, mit un plaid écossais et s'en alla à la campagne parmi les femmes laitières. Après y être resté environ 2 semaines, il revint chez lui et remonta dans la chair. Alors le peuple attendait quelque grande manifestation ou révélation de sa part, mais, au lieu de cela, il se mit à leur raconter quel accueil il avait reçu, comment une femme lui donna du lait écrémé, une autre du babeurre, et une autre du bon lait, si bien que le peuple dut le faire sortir de la chair de nouveau et le ramener chez lui. Celui qui me fit ce rapport était Andrew Robinson, l'un de ses principaux auditeurs, qui ensuite vint à être convaincu et reçut la vérité. Il dit n'avoir jamais entendu dire qu'il recouvra jamais ses sens. Par là, on peut voir ce qui arriva à celui qui maudit la lumière, laquelle lumière est la vie en Christ, la parole, et cela peut être un avertissement pour tous ceux qui parlent mal contre la lumière du Christ. La cinquième malédiction des prêtres, à laquelle tout le peuple devait dire « Amen », maudit soit tous ceux qui nient le jour du sabbat, et que tout le peuple dise « Amen ». Réponse. Ici ils se sont maudits eux-mêmes, ainsi que tous les apôtres, les saints et leur propre génération. N'avez-vous pas, vous et votre génération, nié le jour du sabbat que les Juifs observaient, qui est le jour du sabbat selon l'Écriture? Ne vous réunissez-vous pas le premier jour? Le Christ n'a-t-il pas été crucifié le sixième jour? Ne s'est-il pas levé le premier jour? Les saints ne se réunissaient-ils pas le premier jour, sans observer le sabbat des Juifs? Ne travaillez-vous pas vous-même le septième jour, et n'y tenez-vous pas marché et foire, mais, comme il a été dit plus haut, nous sommes rachetés de la malédiction de la loi. Voici les sentences particulières sur lesquelles Matthew Markell, et le reste des prêtres présents avec lui, excommunièrent ce peuple appelé Quakers, en présence de nombreux témoins, et il exigea de ses auditeurs qu'ils disent Amen à chaque sentence particulière. John Hume, prêtre, principe. Ceux qui n'ont pas les Écritures ne connaissent pas les attributs de Dieu par la lumière de la nature, mais les Écritures déclarent le grand mystère des trois personnes en Trinité, que ceux qui manquent des Écritures ne connaissent pas. Réponse. Votre principe est un mensonge, et ceux qui n'avaient pas les Écritures connaissaient Dieu et le Christ, comme Abraham et Enoch, et l'Écriture ne déclare pas les trois personnes, ni la Trinité, et l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Principe. Que les Écritures révèlent le grand mystère de l'élection, les grandes œuvres de la création et l'œuvre de la rédemption. Réponse, là vous avez élevé l'Écriture à la place de Dieu, et avant Dieu et le Fils, car c'est Dieu qui révèle aux petits-enfants et à ceux qui têtent, Matt 11, 25, et Dieu révèle par son esprit un corps 2, 10, et Dieu révélera Phil 3, 15, et les choses de Dieu sont cachées aux sages et aux intelligents, Matt 11, 25, qui ont les Écritures, les Juifs avaient les Écritures. Dieu révèle ses secrets aux prophètes, ses serviteurs, Amos 3, 7. Nul ne connaît le Père, sinon celui à qui le Fils le révélera, Matt 11, 27. Or le Fils révèle, et le Père révèle, et les choses de Dieu sont révélées par son Esprit, 1 Cor 2, 10. Les Juifs savaient les Écritures, et ne connaissaient pas le Fils, 1 Cor 2, 8, ni le Père, comme dans Jean, ni les choses de Dieu par une lumière naturelle, comme il l'appelle. Les Juifs avaient les Écritures et ne connaissaient pas l'élection, Jean 5, 37-40, parce qu'ils étaient éloignés de l'Esprit. Ainsi, c'est Dieu qui révèle le Fils, la rédemption et l'élection, et non l'Écriture. L'Écriture a été produite par ceux qui avaient la révélation de Dieu. Principe. Que nous, et les papistes et les jésuites et les prêtres, nous sommes tous d'accord ensemble pour dire que l'Écriture est la parole de Dieu, qui vit et demeure à jamais. Réponse. Je crois bien que vous, et les papistes et les jésuites, êtes tous d'accord en un point, mais vous n'êtes pas d'accord avec les apôtres et les ministres de la parole, car les ministres de la parole appellent l'Écriture une déclaration, comme vous pouvez le lire dans Luc 1, 1. Et vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui ont publié les Actes, qui l'ont appelé un traité-récit, Actes 1, 1. De même, vous n'êtes pas d'accord avec certains des vôtres, qui disent que les Écritures signifient des écrits, et les écrits ne demeureront pas à jamais. Ainsi vous êtes Babylone, ce qui signifie confusion, et vous n'êtes d'accord ni avec le Christ, ni avec Jean, Rêve 22, 19, qui a dit les paroles, ni avec Moïse, ni avec Dieu, qui prononça toutes ces paroles, Exo 20, 17. Au commencement était la parole est Dieu, et la parole vit et demeure à jamais, mais l'Écriture est des paroles, et l'Écriture ne peut être anéantie. John Nasmyth, prêtre d'Ambleton, ses principes. Principe. Que l'âme de l'homme est une substance raisonnable et pécheresse. Réponse. Comment ce qui est pécheur peut-il être raisonnable? Et si ce qui est sans péché est raisonnable, et que ce qui est pécheur est raisonnable aussi, alors ils ne font qu'un dans l'unité. Le Seigneur prendra l'âme comme offrande pour le péché? Le Seigneur prend-il ce qui est pécheur comme offrande? Isa 53, 10. Voyez comme vous et le prophète n'êtes pas d'accord ici, mais quelle est cette âme que les méchants ne peuvent tuer? N'est-ce pas celle que Dieu tient en sa main? Et c'est un mensonge de dire que ce qui est raisonnable est pécheur, vous mettez la lumière pour les ténèbres. Dieu qui a toutes les âmes en sa main, insuffla dans l'homme un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante, et l'âme est immortelle, et le Christ, l'évêque d'elle, est immortel, et Dieu la tient en sa main. Ce qui s'oppose à celui qui fait le mal, dont la main est immortelle, mais l'homme, transgressant les commandements de Dieu, l'âme gît dans la mort. Ainsi Christ est l'évêque des âmes, ainsi ceux qui vinrent à connaître Christ, leurs âmes se réjouirent en Dieu leur sauveur, Luc 1, 47, principe, que les esprits mauvais sont à la fois pécheurs et raisonnables, réponse. C'est un mensonge, car ce qui est raisonnable n'est pas pécheur, mais ce qui est déraisonnable est pécheur, 2, 3, 2, ils n'ont pas la foi, et si l'esprit mauvais est raisonnable, et le bon raisonnable, ils ne font alors qu'un, qui donc est déraisonnable. Si l'esprit mauvais est raisonnable, vous ne faites aucune différence entre ce qui est précieux et ce qui est vil, vous portez la marque d'un guide aveugle et d'un faux prophète sur le front. Principe. Que l'un des Quakers est pire que le diable. Réponse. C'est un mensonge, avec son étrange merveille, car il n'y a rien de pire que le diable, dont vous êtes les enfants, car lorsqu'il profère un mensonge, il parle de son propre fond, car il en est le père. Continuez, vers les réfutations suivantes, le but de ce site web est de montrer comment être délivré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, laquelle mène à l'union avec Dieu dans son royaume.